Certainement, vous devez vous en souvenir. Lors de mes précédents passages, le dimanche en début d'après-midi, on avait étudié dans l'Épître aux Philippiens, en partant du dernier chapitre et puis en remontant progressivement. Et alors donc, nous en arrivons donc au texte du premier chapitre. Avant, j'aimerais parler un tout petit peu des salutations qui apparaissent dans cette Épître aux Philippiens. Pourquoi ? Parce que Paul dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ ». Paul, il se présente ici à ses correspondants, non pas seul, ni en son propre nom, mais en compagnie d'un de ses jeunes collaborateurs. Alors, pour observer comment vous fonctionnez depuis tant d'années que vous me faites l'honneur de m'inviter, je dois dire que ce qui est encourageant au milieu de vous, c'est de voir tous les jeunes et moins jeunes qui participent, qui président, qui animent la prière, enfin, et toutes sortes d'aspects du déroulement du culte. Je suppose que vous êtes engagés dans bien d'autres choses que je ne connais pas encore. Mais voyez, Paul, il se présente avec son collaborateur jeune, son fils spirituel, Timothée. Vous avez pu remarquer que dans la vie, les héros, les génies, les personnalités religieuses restent souvent seuls. L'apôtre, lui, il a d'autres hommes à ses côtés, et surtout, il les traite en égaux. Et c'est ça qui est assez intéressant de voir le rapport que Paul entretient avec Timothée, mais aussi avec Silas et autres. Alors qu'il est l'apôtre par excellence, rencontré sur le chemin de Damas par le Seigneur Jésus-Christ en personne, il a dans sa relation avec ses collaborateurs un ton d'égalité. Il est l'autorité instituée par Dieu, mais en même temps il a cette façon de communiquer avec les autres et avec ses collaborateurs sur un pied d'égalité. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui savent beaucoup de choses, où ils vous font sentir qu'ils savent beaucoup de choses et vous vous trouvez tout petit. Ou alors vous avez des gens qui savent énormément de choses et qui, lorsqu'ils s'adressent à vous en se mettant à votre niveau. Il n'y a aucune suffisance, aucune supériorité, aucun orgueil. Simplement le désir, l'amour de partager. Et c'était en quelque sorte l'état d'esprit de l'apôtre Paul. Aimer partager sa connaissance de Christ, aimer voir ses collaborateurs s'investir, grandir en Christ, et puis être également à leur tour investis de ministères et de missions différentes. Alors, je dis cela parce que, il faut bien le dire, ce n'est pas toujours évident dans les différentes églises. Il y a des fois des conceptions extrêmement hiérarchisées qui sont mises en place. Et puis d'autre part, dans les Saintes Écritures, on voit plutôt cette collaboration avec l'autorité que Dieu donne à ceux qu'il appelle à un ministère en particulier, mais qui, ministère, doit être vécu justement dans cet état d'esprit du partage, de l'encouragement, du don de soi, à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ qui, s'il en est, il est Dieu, hein, et étant Dieu fait homme, avait ce rapport avec ses apôtres qui est tout à fait remarquable, alors qu'il était Dieu. Venu sur la terre. Je dis qu'il était Dieu dans son incarnation, il est toujours Dieu, hein, éternellement. Alors, il parle en tant que revêtu d'une charge, c'est l'apôtre, mais quand on regarde bien les choses, une charge qui a plusieurs titulaires. Et en tant que chrétiens, nous sommes aussi titulaires, si nous n'avons pas un ministère en particulier, ministère de la parole ou autre, il n'empêche que nous avons aussi la charge de partager l'évangile. Nous avons donc une charge qui revient de droit à tous les enfants de Dieu. Et c'est bon de savoir que le Seigneur Jésus-Christ a encore d'autres serviteurs qui prennent soin de l'annonce de l'Évangile et de l'amour pour la personne de Christ. En même temps, Paul n'est pas un homme indépendant. Il n'agit pas comme tel. Il remplit une fonction, il dit « Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ ». Et vous voyez, quand on traite à égalité, c'est-à-dire qu'on se met au même niveau. Serviteur de Jésus-Christ. Timothée est également un serviteur de Jésus-Christ. Et il dit à tous les saints en Jésus-Christ. Alors cette expression à tous les saints, elle décrit l'état dans lequel se trouvent les destinataires, donc les Philippiens, par suite d'une volonté et d'une manière d'agir précise de Dieu à leur égard. Quand l'Écriture nous appelle les saints en Jésus-Christ, c'est parce que Dieu en a décidé ainsi. Comme vous le savez, les hommes saints sont des hommes profanes que Dieu a mis à part, c'est-à-dire vous et moi, et dans les temps anciens, donc ceux qui nous ont précédés, dans ce qui s'appelle l'Église universelle, et là en l'occurrence l'Église apostolique, c'est Dieu qui a mis à part ces chrétiens de Philippe. C'est lui qui les a réclamés et saisis. Vous savez, dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus-Christ, dans le chapitre 17, entre autres, il dit « Père, merci pour ceux que tu m'as donnés. » Et en cela, évidemment, on touche à ce qui s'appelle la théologie de la souveraineté absolue de Dieu, de l'élection. Et le Christ, dans son ministère et dans son incarnation, il a reçu, et il reçoit encore, de la part de son Père, ceux et celles que Dieu le Père, dans sa souveraineté, et de toute éternité, a décidé de sauver. Pour être pasteur d'une assemblée assez importante et pour avoir un ministère itinérant, souvent on me dit, mais pourquoi moi j'ai été choisi? Nous avons été choisis parce que Dieu l'a voulu ainsi. Pourquoi moi je suis le premier converti de ma famille? Dieu l'a voulu ainsi. Fort heureusement, je ne suis pas le seul. Hein. Le Seigneur a sauvé d'autres membres de ma famille. Mais Dieu a décidé de nous sauver, et ça fait partie de son appel souverain. Il nous a saisis pour faire de chacun d'entre nous ses sujets, pour nous utiliser dans le sens noble du terme, et pour qu'on soit à lui. Et c'est donc dans le Seigneur Jésus-Christ que réside la sainteté des Philippiens. C'est en Christ que notre sainteté réside. C'est en lui qu'ils étaient saints, hein, ou qu'ils sont saints, si on fait comme le Seigneur Jésus-Christ qui dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob », donc c'est au présent, hein, alors qu'il parle bien des siècles après. Donc pour les Philippiens, c'est en Christ que réside leur sainteté, c'est en lui qu'ils sont saints, c'est en Christ que nous sommes saints aujourd'hui, en ce dimanche 2011. Et c'est en les considérant à partir de Jésus-Christ et d'aucun autre point de vue qu'on peut saluer les frères et les sœurs comme tels, comme des saints. C'est parce que nous sommes en Christ que nous sommes saints. Et quand on regarde un frère, une sœur, qu'est-ce qu'on sait? On sait que cette personne, si elle est née de nouveau, eh bien, elle est sainte en Christ. Et la sainteté des chrétiens, elle tire son existence et sa vérité de celui qui la donne, qui communique cette sainteté. Et cela parce qu'il la leur donne et non pas parce qu'il la possède. Vous savez, on ne possède pas de sainteté, c'est Dieu qui nous la donne. C'est le Christ en nous qui est saint et qui fait en quelque sorte qu'effectivement, par sa présence en nous, nous sommes sanctifiés. Non seulement mis à part pour le jour de la rédemption, j'arrive à mes versets, hein, mais en même temps scellé pour le jour de la rédemption et puis transformé dans nos corps mortels par l'action puissante du Seigneur tout au long de notre vie terrestre en tant qu'enfant de Dieu. C'est pour cela que dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 1, versets 30 et 31, l'apôtre dit simplement, c'est simple mais c'est d'une profondeur extraordinaire, « Or c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification. » Notre sanctification, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que toutes les saintes écritures nous enseignent et nous invitent à une communion intime avec le Christ, parce que plus nous sommes en intimité avec le Christ, plus nous sommes sanctifiés. C'est lui notre sanctification. Et de la même manière que c'est lui notre salut et lui la vie éternelle, si nous voulons être saints dans le sens de progresser dans la sanctification, alors nous avons tout intérêt à demeurer en Christ, parce qu'il est notre sanctification. Et nous arrivons donc à nos textes. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, dit Paul aux Philippiens, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Paul dit : je rends grâce à votre sujet chaque fois que je me souviens de vous. C'est vrai qu'il y avait un lien très spécial entre l'apôtre Paul et les Philippiens. C'est Paul qui a fondé l'église de Philippe. Et il passe son temps à rendre grâce à Dieu pour ces Philippiens. Et on peut dire que la première condition pour que les chrétiens pensent les uns aux autres et prient les uns pour les autres de la bonne façon, c'est qu'ils rendent grâce à Dieu les uns pour les autres. Alors, je ne sais pas comment vous priez, vous, frères et sœurs du Vietnam, dans ce beau pays de France. Moi, je suis d'origine grecque, mais je suis quand même né en France, une mère française, une culture française quand même. Mon père était grec, évidemment. Mais je me suis posé la question, est-ce que je rends grâce quand je prie pour mes frères et mes sœurs? Est-ce que je rends grâce? Seigneur, je te rends grâce pour Pierre, je te rends grâce pour Jacques, je te rends grâce... Je ne vais pas dire Jean, mais pourquoi pas, il y en a d'autres. Pour Simon, pour... Alors vous frères et sœurs, enfin sœurs et frères vietnamiens, est-ce que vous rendez grâce pour les uns pour les autres? Alors je vois mon frère au premier rang, il opine du bonnet, comme l'on dit chez nous. Alors pour un vietnamien, je ne sais pas ce que ça veut dire que de secouer la tête dans ce sens-là, est-ce que c'est un acquiescement? Je ne sais, enfin vous savez. Mais oui, il faut rendre grâce les uns pour les autres. Parce que le fait de rendre grâce les uns pour les autres, rendre grâce à Dieu pour mon frère, ma sœur qui se trouve à côté de moi dans la même communauté, ça change notre regard sur les autres. Nous ne pouvons pas rendre grâce les uns pour les autres et ensuite dire du mal les uns des autres. Vous voyez comment l'obéissance à l'Écriture nous conduit dans la sainteté et nous évite bien des pièges. Et il dit, je manifeste ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Vous savez, le chapitre 4, si vous vous y rendez, si vous avez votre Bible ouverte, au chapitre 4 et au verset 15, il est dit, dans l'Épître aux Philippiens, vous le savez vous-même, Philippiens, chapitre 4, verset 15, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à deux reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Voilà une église qui, d'une manière financière, s'était engagée dans le ministère de l'apôtre Paul, dans l'annonce de l'Évangile. Il faisait donc des offrandes et il soutenait l'apôtre dans son ministère. Et puis en même temps, on voit que ce sont des Philippiens qui sont ensemble dans le combat pour annoncer l'Évangile, puisqu'il est dit au chapitre 12, « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué... » Pardon, verset 12 du chapitre 1. « Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. » On a donc un engagement financier, on a un engagement verbal de partager l'Évangile. Alors évidemment, ça dans le contexte, ça n'est pas lié directement aux Philippiens, puisque l'apôtre est en prison à Rome. Mais d'une manière générale, tous ceux qui savaient ce qui se passait dans la vie de Paul, pour la plupart d'entre eux, ils étaient encouragés pour annoncer l'Évangile. Donc on voit un engagement financier et puis un engagement de sa propre personne comme témoin. C'est extraordinaire quand il y a dans l'église locale les églises locales, il y a cette double action. Engagement financier, engagement de sa propre personne, de chaque enfant de Dieu pour partager l'évangile. Ensuite, au verset 6, il dit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Vous savez, quand vous avez un responsable spirituel, un père spirituel, l'homme que Dieu a utilisé pour fonder la communauté dans laquelle vous vous trouvez, et que ce dernier, qui est quand même une référence, quand il regarde les Philippiens, il leur écrit « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce sont des paroles d'encouragement. Si vous me regardez puis vous me dites « Jean, t'inquiète pas, nous sommes persuadés que le Seigneur va te conduire jusqu'au bout, mais vous savez, je vais repartir du milieu de vous en me disant « Ah oui, je peux y aller. » Alors je vous remercie, on me l'a déjà dit depuis pas mal d'années que je suis au Seigneur, mais c'est extraordinaire. Et quand moi-même j'ai l'occasion de dire à des frères, des sœurs « Mais vous savez, le Seigneur nous tient et puis il va nous conduire. » Alors ça vous donne en quelque sorte des ailes pour annoncer l'Évangile. Hein. Et donc l'apôtre, il est reconnaissant et il se réjouit. Pourquoi ? Parce qu'il a confiance. Il a confiance en Dieu, évidemment, que Dieu va accomplir son œuvre. Mais ce qui était très intéressant, c'est que cette confiance de l'apôtre ne repose pas sur le christianisme des Philippiens, qui ne mérite pas plus de confiance que n'importe quelle autre réalité humaine. Vous savez combien nous pouvons être déçus par nous-mêmes et déçus par les autres. On a communément, on dit qu'on ne vit pas d'illusions. Les illusions existent pour qu'on les perde. Et combien d'hommes et de femmes pleurent parce qu'ils ont vu leurs illusions s'évanouir, hein, ou s'effondrer. On vit de rêves en tant que chrétien, de rêves bibliques. C'est le rêve de la foi, on ne vit pas d'illusions. Je ne suis pas parfait, vous l'êtes peut-être, mais en tous les cas, moi je sais que je ne suis pas parfait. Et donc l'apôtre n'est pas en train de placer sa confiance chez les Philippiens, il place sa confiance en Dieu. C'est pour ça qu'il peut leur dire « je suis persuadé que ». Non pas parce qu'ils font des choses, mais simplement parce que celui qui a appelé les Philippiens au salut, comme nous l'avons vu dans la salutation, les saints qui sont à Philippe, eh bien ce Dieu-là est le Dieu fidèle et il va accomplir son œuvre sans se relâcher. Et donc Paul se confie en celui qui ne se lasse pas et qui n'est pas incapable de donner. Il se confie en celui qui ne laisse pas l'œuvre de ses mains inachevée. Vous savez, s'il y en a un qui ne sommeille ni ne dort, c'est bien l'Éternel, hein, comme nous dit le livre des Psaumes. Et Dieu n'est pas un homme pour se relâcher. Vous savez, les hommes, sans exception, ont coutume de faire des choses inachevées. Je ne sais pas si vous réalisez toujours ce que vous avez prévu, ni même si vous avez toujours achevé ce que vous avez commencé, je ne sais pas. Peut-être, est-ce qu'on y arrive toujours ? Chacun peut répondre pour lui-même devant le Seigneur. Mais Dieu, lui, quand il commence quelque chose, il va jusqu'au bout. Parce qu'il est Dieu, il est fidèle, et puis, il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous savez, Dieu, vous le savez, c'est extraordinaire comme le Dieu de la Bible. Hein. Comme dit Paul à Timothée, « Or, celui qui seul possède l'immortalité, hein, en parlant de Dieu le Père, c'est aussi celui qui reste fidèle. » Et c'est en lui que repose la confiance de Paul. Quand on est engagé dans le combat spirituel, comme c'est le cas de chacun d'entre nous, notre vie appartenant au Seigneur, nous avons été mis à part par Dieu, choisis, Dieu veut nous utiliser dans le sens noble du terme, faire de nous des témoins toujours plus, dont la foi sera toujours plus développée et l'obéissance toujours plus grande. Eh bien, notre confiance ne repose pas sur nous-mêmes, elle repose, quand on se regarde, on aurait toutes les raisons d'abandonner, hein, mais elle repose sur Dieu. On a confiance en Dieu, ce qu'il a commencé, il va l'achever. Et donc, ce n'est pas Paul qui a commencé la bonne œuvre à Philippe. Vous savez, Paul, il a conscience des réalités, comment il est utilisé par Dieu. Il sait très bien que son ministère ne dépend pas de ses capacités. D'ailleurs, il va le dire lui-même dans l'Épître aux Corinthiens. Il place sa confiance en Dieu. Et dans l'Épître aux Philippiens, à Timothée, qu'on a coutume d'appeler Testament de Paul, il dit « Je sais en qui j'ai cru ». Ça veut tout dire, ça. Il n'a jamais placé sa confiance en lui-même, et pourtant, il aurait pu. Mais comme il le dit aux Corinthiens, ce n'est pas avec une démonstration de capacité humaine et de philosophie que je suis venu vers vous, mais dans la crainte, pour manifester la puissance de Dieu. Donc Paul avait conscience de la présence de Dieu et il plaçait sa confiance en Dieu. Et donc ce n'est pas lui qui a commencé la bonne œuvre en Philippe, c'est Dieu qui de toute éternité savait qu'il allait bâtir une église là, et qu'il savait qu'il allait utiliser l'apôtre Paul. Ce ne sont pas davantage les Philippiens, eux-mêmes en se convertissant, ils ont été appelés. Vous savez, souvent je me dis c'est extraordinaire quand on étudie les Saintes Écritures, et qu'on pousse, qu'on pousse l'étude des doctrines, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi je suis sauvé? Si Dieu ne m'avait pas donné tout ce qu'il faut pour être sauvé, il a attendu mon oui, mais il n'empêche qu'il m'a attiré à lui, il m'a convaincu de péché, de justice et de jugement, il m'a amené au pied de la croix, là, en face à face avec lui, et puis il a fallu que je dise oui. Alors oui, ma responsabilité a été engagée, mais il a tout fait pour que je puisse dire oui. C'est Dieu qui a commencé. Et justement, parce que c'est Dieu qui a commencé, alors nous pouvons être certains de plusieurs choses. D'ailleurs, ce qui est formidable, c'est que cette vérité, elle enlève aux Philippiens et à Paul toute gloire et tout motif d'arrogance. Vous savez, il n'y a aucune gloire à avoir. Aucune arrogance à manifester. Mais le fait de n'avoir aucune gloire, aucune arrogance, ça a aussi un avantage. C'est que du même coup, ça nous enlève tout sujet de découragement. Puisque c'est Dieu qui a commencé, c'est Dieu qui va continuer. Et il va nous entraîner avec lui. Et c'est pour ça que le chrétien est quelqu'un d'assez extraordinaire, dans la mesure où... Enfin, ce qui est extraordinaire, c'est le Dieu qui l'habite. Dans la mesure où il nous donne des certitudes qui nous laisse dans l'humilité, dans la simplicité, et qui nous conduisent à la persévérance face à l'épreuve. On étudiait ce matin dans l'église de Paris Nation cette rencontre entre le Christ et cette femme malade depuis 12 ans de perte de sang qui vient toucher son vêtement. Et dans le grec, ce qui est expliqué, qui n'apparaît pas en français, c'est que cette femme était au plus bas dans l'épreuve, mais avec à l'intérieur d'elle ce désir d'aller vers le maître. Vous voyez, ce désir de ne pas se laisser décourager. Et ça ressort dans le grec simplement, mais dans le français, ça ne ressort pas vraiment. C'est extraordinaire, ça. C'est que Dieu peut, dans nos vies, nous faire prendre conscience que vraiment nous sommes peu de choses limitées face à l'immensité. J'ai vécu toute ma jeunesse dans le 13e arrondissement de Paris, et à chaque fois que je viens par ici, je regarde tous ces immeubles, ces buildings, cette foule. Je me dis, Seigneur, comment on va faire pour leur présenter l'évangile à tous ces gens-là? Je ne sais pas si ça vous arrive, vous. Moi, avenue de Choisy, là, des fois, quand je passe par là, je vois tous ces amis asiatiques qui vont partout, là. Puis je me dis, je regarde les immeubles sur les boulevards extérieurs. Je me dis, oh là là. Mais en même temps, on continue. Parce que Dieu a mis en nous, justement, cette vie de continuer. Point de découragement. C'est le Dieu infini qui utilise des personnes finies. Et c'est ce qui s'appelle, c'est le sérieux de Dieu, la fidélité de Dieu, le chemin de Dieu qui sont en question. Or, précisément, ils ne peuvent pas être mis en question. Quel que soit d'ailleurs le comportement des Philippiens, parce que tout ça dépend de Dieu. Quand Dieu commence une œuvre, il va jusqu'au bout. Et c'est pour ça que l'apôtre va dire des versets 7 à 8, « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. » Voyez comment c'est intéressant, l'apôtre ne dit pas « j'ai quelque chose de plus que vous ». Il a une vie, une relation avec le Seigneur qui est différente. Je veux dire, il a peut-être certainement plus d'années de vie chrétienne que certains Philippiens, c'est évident. Il a une expérience de Dieu qui est différente. Mais il dit « la même grâce nous habite ». C'est-à-dire, ce que vous voyez en moi, vous pouvez le vivre. Je ne parle pas au niveau du ministère, parce que Dieu donne des ministères différents à chacun, des dons à chacun différents. Mais on peut être certain que la même grâce nous est accordée. Le même Dieu est prêt à agir dans nos vies. Qui que nous soyons, quelles que soient nos limites, Dieu a un plan extraordinaire pour chacun d'entre nous qui s'harmonise avec la vie de tous les frères et de toutes les sœurs et tous les frères qui nous entourent. C'est ce qui s'appelle l'harmonie de Dieu dans l'église locale. On n'a pas choisi, j'ose espérer que vous ne pensez pas que c'est vous qui avez choisi de vous retrouver dans l'église évangélique vietnamienne. C'est Dieu qui vous y a placé. Parce que si jamais vous pensez que c'est vous qui avez décidé de rester, à mon avis, vous loupez un petit quelque chose là. C'est Dieu qui nous a placés là, avec des frères, des sœurs et des frères très différents les uns des autres. Mais Dieu a prévu cet ensemble qui peut paraître disparate, mais qu'il est capable de rendre harmonieux et puissant. Et alors, l'apôtre dit, mais vous avez la même grâce que moi. Ils sont donc également compagnons de combat et compagnons de la grâce. Je saute vu l'heure. J'ai plus que 2 minutes à ma montre. Il dit, car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Verset 8. Ce qui est intéressant, c'est quand on étudie la structure de l'épître, on se rend compte que en Paul, ce n'est pas Paul qui vit, c'est Jésus-Christ. Quand il va dire aux Philippiens, je ne sais ce qui est le mieux pour moi, car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. S'il faut que je voudrais partir, mais enfin, si je dois rester au milieu de vous, parce que ce serait utile, je suis prêt. Donc qu'est-ce qu'il dit l'apôtre ? Il dit, Christ est ma vie. Il vit en Christ. Christ vit en lui, il vit en Christ. C'est-à-dire, il est complètement immergé, on va dire, en Christ. Et alors, du coup, c'est pourquoi Paul est animé non pas de la tendresse de Paul, mais de celle de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit « je vous chéris de la tendresse de Christ », parce qu'il a les sentiments de Christ qui s'expriment au travers de son corps mortel. Vous savez, Paul, quand vous voyez Paul dans le livre des Actes, c'est quand même une sacrée personnalité, hein. Il arrive au paroxysme avec Barnabas, au sujet de Jean-Marc. Mais là, on voit que c'est extraordinaire, parce qu'il est tellement en Christ que c'est les sentiments de Christ. Quand on est en communion avec Christ, on aime tous les frères. Quand on supporte un péché ou on autorise un péché dans notre vie, ça commence à se brouiller sévèrement. Et puis là, on commence à se dire, ah, celui-là, il m'énerve, et puis celle-là, je ne sais pas quoi. Enfin bon, c'est pour les Français, je parle. Les Vietnamiens français, je ne connais pas. Mais vous me paraissez tellement sympathique, c'est formidable, et spirituel. Et alors, pour terminer, ils disent, et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et la louange de Dieu. Et pour simplement terminer l'explication de ce verset, j'aimerais vous donner l'explication de ce verset au travers d'autres versets dans l'Épître aux Éphésiens, juste avant Philippiens, chapitre 3. Quand Paul dit, à partir du verset 14, il dit « à cause de cela », vous connaissez ces textes, hein, « je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Puissiez connaître l'amour de Christ. Ça s'adresse à des chrétiens. Vous savez, connaître l'amour de Christ, c'est pas simplement se dire c'est extraordinaire, Jésus m'a sauvé, a pardonné mes péchés, il est mort sur la croix pour moi, j'ai la certitude de mon salut, il vit en moi par le Saint-Esprit, je suis un enfant de Dieu. Enfin, vous connaissez tous les aspects de la doctrine biblique à ce sujet. Mais c'est aller plus loin dans l'intimité avec Christ et être complètement bouleversé par l'amour de Dieu manifesté en Christ. Je ne sais pas comment ça se passe dans vos vies, quand vous commencez à méditer un texte, quand vous réfléchissez à Dieu. Des fois, on est presque, oui, complètement traversé par une réalité qui s'impose à nous, puis on est rempli d'une compréhension de l'amour de Christ pour nous. Et il y a véritablement des choses à découvrir dans cette intimité avec Dieu. Cet amour qui est capable de nous envelopper, de nous traverser et nous habiter. Pourquoi il parle de ça? Il dit connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. C'est donc une révélation que Dieu est capable de nous donner. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Le but des prières de Paul pour les Philippiens, c'est qu'ils découvrent l'amour de Christ pour qu'ils soient remplis de toute la plénitude de Dieu. Je connais depuis 42 ans maintenant que le Seigneur m'a sauvé. Je peux vous dire, je connais des chrétiens, ils me disent « Ah, je voudrais progresser. Ah, je voudrais des miracles dans ma vie. » Je leur dis « Écoutez, c'est très bien, mais le plus grand des miracles, c'est la connaissance de l'amour de Christ. Connaître Christ, le servir, vivre pour lui, vous allez voir. On n'est jamais insatisfait. C'est extraordinaire et ça n'a pas de fin. Évidemment, Dieu étant éternel et infini, l'amour a les mêmes dimensions. Alors que Dieu bénisse chacun d'entre nous, qu'il nous conduise, et puis qu'il nous fasse du bien, qu'il nous conduise dans cette vie chrétienne, cette vie de découverte et d'obéissance pour la gloire de son nom. Amen.